Radio 1, premier sur l'info.
Nous sommes le mardi 24 mars, le journal de la mi-journée présenté par Antoine Samoyau. Bonjour.
Bonjour Moreto, bonjour à tous. La grève est déclarée à la CPS hier soir à minuit. Malgré d'ultimes négociations, les syndicats ont entamé leur mouvement à la caisse de prévoyance sociale. Selon la direction, les deux tiers tout de même des agents sont en grève. L'actualité reste chargée cette semaine sur le plan de la justice. Au tribunal correctionnel, l'affaire du SED se poursuit dans un climat assez houleux. Mais juste en face, le tribunal administratif s'est également occupé ce matin du Haut Conseil de la Polynésie et également du Conseil des réformes stratégiques, une autre autorité mise en place par Gaston Ploss il y a quelques mois. Enfin, la première projection débat de l'envers du monde a été un franc succès hier soir à l'ICEP. Ce soir, il sera question de l'alerte au mercure. Nous recevrons ce midi Benoît Lhaire, le directeur général de Fenouama, pour évoquer ce sujet ô combien important pour la Polynésie. À tout de suite.
Et la grève est donc déclarée depuis ce matin à la CPS.
Les cinq centrales syndicales ont été conviées tard hier soir à revenir autour de la table des négociations. Un peu plus tôt, le président du CA de la CPS, Yves Le Gros, avait demandé au président Édouard Fritsch de faire droit à l'une des principales revendications des grévistes, à savoir le retrait de toute référence à la révision de la convention collective de la CPS dans la convention État-Pays sur le retour de l'État au financement du régime de solidarité. Et l'objet des négociations nocturnes était justement la réponse positive du président. Président Édouard Fritsch a ce courrier. Dans sa lettre, le président du pays a informé les syndicats qu'en accord avec les représentants de l'État, il n'était plus fait mention de la convention d'entreprise de la CPS dans la dite convention État-Pays sur le RST. Édouard Fritsch a d'ailleurs précisé qu'il ferait part de cette décision à la commission de l'économie et des finances, à l'Assemblée de la Polynésie française, j'y arrive, lors de sa séance du 25 mars prochain. Pour autant, ce geste du pays n'a pas totalement calmé les syndicats qui ont entamé la grève dès minuit hier. Munir Atinam Banakrishtan du syndicat des cadres de la CPS considère que la convention collective n'est pas le seul point de revendication et reste confiant sur la suite des négociations.
Alors c'est un des points de revendication, hein. Par contre il y a d'autres points à résoudre encore, donc on attend que le président du CA nous reconvoque pour une négociation.
Vous pensez qu'il va nous recevoir pour renégocier encore?
Oui, j'espère, oui. C'est quand même l'objectif de notre mouvement, donc l'idée c'est de trouver un terrain d'entente qui convienne à tout le monde, et voilà, c'est ce qu'on attend.
Même son de cloche pour Patrick Galnon, secrétaire général de la CSTPFO, qui considère que le point d'achoppement est désormais la pérennité de la protection sociale. Il espère que le gouvernement reprendra sa plume pour demander à l'État de rembourser les maladies radio-induites de l'ordre de 47 milliards de francs, la fameuse question de la dette du nucléaire.
Le principal, après celui de la Convention, c'est celui de la PSG. Il faut savoir que la PSG, c'est surtout la maladie et la retraite. Alors on espère que sur ce point-là, le gouvernement y prendra encore sa plume pour demander à l'État de nous rembourser les maladies radio-induites de l'ordre de 47 milliards. Et à ce moment-là, on aura réglé pratiquement la PSG. Après, on s'attaquera certainement au point numéro 1. Voilà, donc il faut aller par palier. Voilà où on en est aujourd'hui.
Mais pour vous, c'était pas la convention collective qui comptait le plus?
Non, on avait trois points qui comptent autant les uns que les autres. On en a levé un, donc il nous reste deux autres points. Donc on attend.
Gaël Taputou, agent de bureau à la CPS, non gréviste, considère qu'il n'y a plus d'utilité de faire grève car le sujet de la convention collective a été retiré.
On reproche beaucoup de choses au directeur, alors qu'il n'est pas le seul fautif, à savoir que l'année dernière, concernant le budget administratif, il a dû prendre une décision, c'était de mettre à la retraite d'office certains de nos agents. Ça a été difficile pour lui, mais s'il en est venu à cette décision, c'est surtout parce qu'on lui a imposé les 0,5% d'économie. Et ça, c'est un des syndicalistes qui a demandé. Il a fait voter par le CA, maintenant qu'il prenne les responsabilités. Si ça avait été que pour la convention, je serais allé faire la grève. Mais là, elle a été retirée de la convention, donc il n'y a plus utilité de le faire.
Des propos qui ont été recueillis ce matin par Vaïté Ourari Pambrin.
Actualité judiciaire à présent avec le procès de l'affaire du SED qui se poursuit au tribunal.
Un procès qui s'est déroulé hier après-midi dans un climat assez tendu, je vous le disais. Je vous rappelle que Gaston Floss, son ancien directeur de cabinet et six autres prévenus sont renvoyés en correctionnel pour atteinte à la vie privée dans l'affaire du SED. Le SED, c'est ce service d'espionnage mis en place à la présidence entre 1997 et 2004. Plusieurs plaintes avaient été déposées dans ce dossier, notamment par le journaliste de Tahiti Pacific Magazine Alex Duprel ou encore par Oscar Temaro et l'avocat l'avocat Stanley Cross. Mais ces deux derniers ont retiré leur plainte lors du rapprochement entre Oscar Temaro et Gaston Flosse en 2007. Le dossier ne tient plus que par la plainte d'Alex Duprel. Et les avocats de la défense l'ont bien compris. Hier après-midi, ils ont tenté de faire dire aux journalistes qu'il retirait sa plainte lorsqu'Alex Duprel a déclaré qu'il n'en voulait pas aux petites mains du service. Le ton est monté entre les avocats, le procureur et la présidente du tribunal sur la question de savoir si l'ensemble des charges tombait avec ce type de déclaration. Mais après une suspension d'audience, Alex Duprel a confirmé qu'il maintenait sa plainte. Le procès continue donc au moins jusqu'à demain au palais de justice de Papeete.
Justice toujours avec le cas du Haut Conseil qui a été examiné par le tribunal administratif.
C'est un feuilleton à rebondissement que celui du Haut Conseil de la Polynésie française. Souvenez-vous, le Haut Conseil est l'autorité chargée de veiller à la sécurité juridique des textes établis par les autorités du pays. Il avait été créé par le statut de 2004, puis supprimé pour son inutilité par une loi organique de 2011 et remis en place par Gaston Flosse à son retour au pouvoir en 2013. Dès cette période, Oscar Temaro et le Haut Commissaire de la République ont tous deux attaqué la création du Haut Conseil. Une première décision du tribunal administratif est venue annuler sa création en 2014, mais juste avant qu'elle ne soit appliquée, le gouvernement a recréé le Haut Conseil sur des bases juridiques différentes. Nouveau recours d'Oscar Temaro et du Haut Commissaire, le tribunal de Papeete se déclare incompétent et il y a deux semaines, le Conseil d'État rend un avis sur ce dossier. Ce matin, l'affaire est donc revenue devant le tribunal administratif de Papeete. Avec l'avis du Conseil d'État, le rapporteur public a demandé un toilettage partiel des dispositions du Haut Conseil. Concrètement, si le tribunal suit ses réquisitions dans deux semaines, il décidera le maintien de l'autorité, mais sans certaines de ses caractéristiques. Principalement, le président du pays ne serait plus obligé de saisir le Haut Conseil sur chaque texte établi par le gouvernement.
Et devant ce tribunal administratif, il y avait aussi un deuxième dossier assez semblable ce matin.
Ce deuxième dossier était beaucoup plus surprenant, même s'il devrait avoir beaucoup moins de conséquences. C'est le comité des réformes stratégiques qui a été attaqué par le syndicat de la fonction publique. Alors le comité des réformes stratégiques, c'est l'autorité de réflexion créée par Gaston Flosse juste avant qu'il ne soit condamné à sa peine d'inéligibilité en juillet 2014. Un comité est présidé par l'ancien entrepreneur Daniel Palax, l'avocat de Gaston Flosse, maître Quinquis, ou encore son ancien proche conseiller Michel Poletti en font partie. Le syndicat de la fonction publique estimait ce matin que la création de ce comité ne relevait pas de la compétence du pays, ou encore qu'il entraînait un dépassement déguisé des dépenses obligatoires des ministères. Mais comme je vous l'indiquais, ce recours a peu de chances d'aboutir puisque le rapporteur public a requis le rejet de la requête pour irrecevabilité. Décision dans deux semaines.
On reprend avec notre invité pour parler ce midi de l'envers du monde qui a commencé hier soir à l'ICEP.
L'envers du monde, c'est ce cycle de conférences gratuite organisée à l'école de la mission. Jusqu'à vendredi, 5 documentaires seront diffusés à partir de 18h. Ils seront suivis à chaque fois d'un débat entre le public et plusieurs professionnels pour revenir sur le thème développé par le documentaire. Ce soir sera projeté un documentaire réalisé par Sophie Bonnet et intitulé Alerte au Mercure. Un documentaire tout récent puisqu'il a été diffusé sur France 5 en janvier dernier. Et il fait le constat de l'omniprésence du mercure autour de nous, dans les jouets, le plastique, le thon aussi évidemment. Pour parler de cette problématique du mercure dans notre société, je reçois ce midi Benoît Lair, le directeur général de Fenouama. Benoît, bonjour.
Bonjour.
Alors, je viens de le dire, vous êtes directeur de Fenouama, société qui traite les déchets en Polynésie. Cette problématique du mercure, vous la connaissez donc très bien. Un mot d'abord sur la provenance du mercure au Fenouama. D'où est-ce qu'il vient exactement ?
Alors, au niveau des produits que nous récupérons qui contiennent du mercure, effectivement, il y a les piles boutons, les petites piles que vous avez dans les montres, dans les appareils auditifs ou autres. Effectivement, il y a une présence possible de mercure dans ces petites piles. Donc, c'est pas dans toutes les piles, hein. Ensuite, il y a, comme vous le disiez, dans certains produits de la vie courante, des jouets pour enfants. Par exemple, il y a des couleurs qui sont fixées grâce à la présence du mercure. Donc, effectivement, ça, c'est dans la composition. Ça n'a pas de risque a priori de s'échapper, mais il y a des petites présences. Donc nous, au niveau de notre syndicat Fenouama, nous récupérons aujourd'hui entre 15 et 20 tonnes de piles par an. Alors parmi ces piles-là, la grande majorité, c'est les piles traditionnelles, hein, au cadmium, au nickel, piles alcalines. Et effectivement, de temps en temps, il y a des piles boutons. Ensuite, un des points abordés dans le reportage documentaire qui sera diffusé ce soir à l'ICEP, c'est la présence de mercure dans les plombages dentaires. Et c'est vrai qu'on le sait pas parce qu'on appelle ça un plombage, donc tout le monde croit que c'est du plomb. En fait, c'est un amalgame où il n'y a pas de plomb, il y a du mercure. Et donc, un des soucis, c'est que on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a un lien, une corrélation entre la présence de ce mercure et des maladies des tremblements, maladies d'Alzheimer, etc. Donc aujourd'hui, c'est toujours pas confirmé totalement, mais il y a des suspicions. Et donc par rapport à notre territoire, il y a une autre possibilité de suspicion de provenance du mercure, c'est sur l'activité volcanique souterraine, puisque nous sommes sur des îles volcaniques. Donc la distance entre le sol où nous vivons et le souterrain où ce produit se trouve fait que la distance est tellement faible qu'il peut y avoir des échappatoires, surtout au niveau marin. Et donc c'est pas encore confirmé, mais il y a effectivement des pistes d'orientation sur, en fait, quand on dit que le thon a du mercure, c'est que effectivement il y en a de façon naturelle par l'activité traditionnelle, mais aussi très certainement par l'activité humaine au niveau des industries qui fabriquent ces produits, avec des rejets dans l'atmosphère qui font qu'un jour ou l'autre il y a un nuage qui va pleuvoir sur de la terre ou sur de la mer, et donc le mercure va arriver.
Alors, vous, à Fenouama, vous parliez donc de la présence de mercure dans les piles, dans les jouets pour enfants. Parlons des déchets. Comment est-ce que ce mercure, il est traité au Fenouama? Quel est le circuit qui est mis en place?
Alors, pendant nous récupérons les piles au départ quand nous étions à la CEP, depuis 2003. Nous avons fait cette opération jusqu'en 2010. Et jusqu'à cette époque-là, nous renvoyons les piles en Europe, en France, où elles étaient broyées, traitées dans des usines spécifiques qui permettaient justement de récupérer une partie de ces éléments qui sont toxiques, mais qui, on voit bien, qui sont aussi utiles pour d'autres produits. Donc il y avait une sorte de, un recyclage qui était évalué à environ 70%. Et aujourd'hui, le syndicat Fenouama, qui a racheté la CEP, continue cette opération, et désormais les piles sont orientées vers la Nouvelle-Zélande. Mais localement, aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Donc le geste simple que tout le monde peut faire, c'est de ramener ces piles dans les magasins qui sont équipés de bornes à piles, pour qu'après nous puissions les orienter vers les filières de traitement à l'étranger.
Et est-ce qu'en Polynésie, on pourrait aller plus loin dans la gestion de cette matière particulièrement polluante qu'est le mercure?
Alors, par rapport au gisement que nous produisons, il est tellement faible que aujourd'hui c'est totalement impensable d'imaginer une usine pour le recycler, les piles. C'est trop spécifique, on est sur quelque chose de trop pointu, avec un gisement tellement faible que ça serait impossible. Donc le plus sage, c'est d'exporter, et que des professionnels qui regroupent plusieurs pays puissent avoir les équipements nécessaires pour le recyclage.
Alors justement, est-ce qu'on peut dire que la Polynésie est une bonne élève? Est-ce que la récupération justement de ces déchets et contenant du mercure est bien établie en Polynésie?
Alors on est bon élève, on pourrait être des meilleurs élèves encore. Je pense que la population est de plus en plus réceptive à ce type de message. Les équipements existent, maintenant ils ne sont pas en quantité suffisante. Et justement nous avons demain justement nous avons le vote du budget de notre syndicat. Donc en tout cas moi je vais défendre le dossier pour qu'on puisse équiper davantage nos équipements. Aujourd'hui notre syndicat Fenouama ne représente que les 12 communes de Tahiti et de Moorea hors FAA, mais ça n'empêche pas que des communes extérieures à notre syndicat puissent devenir adhérentes définitivement ou clientes. Donc on a la porte ouverte, on travaille déjà avec d'autres îles qui ne sont pas dans nos syndicats, comme Bora Bora, Maupiti, Taha, etc. Donc on récupère déjà leurs piles qui rejoignent celles de Tahiti et qui ensuite partent vers la Nouvelle-Zélande. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il faut jouer, coup de serré, tous ensemble, parce que les piles, il faut absolument les orienter vers des filières adaptées, parce que abandonner une pile, pour vous donner juste une image, une pile bouton que nous avons tous dans nos petites montres, si on la dépose dans notre jardin, voilà, un enfant qui a 10 ans va jouer avec la montre et va la laisser dans le jardin, on ne sait pas où elle est passée, ben cette pile va polluer pendant 50 ans 1 mètre cube de terre. Donc si à côté de cette pile, vous avez planté le cocotier ou un papayer qui fait les meilleures papayes du monde parce que c'est les vôtres, en fait, petit à petit, c'est très pernicieux, mais en fait, le mercure, c'est un métaux lourd. Et un métaux lourd, c'est un produit qui, malheureusement, pour les êtres vivants, que ce soit les plantes ou les animaux, l'homme, en fait, si on l'absorbe, on va pas le rejeter. Il va se fixer aux organes vitaux, comme le foie, les intestins, etc. Et donc, c'est pour ça que, quand on dit qu'il y a du mercure dans le thon, c'est parce qu'il y a du mercure de façon naturelle, comme on disait, enfin c'est ce qu'on pense, hein. Les scientifiques sont toujours en train de travailler sur ces dossiers-là, mais le thon est un poisson qui se trouve en fin de chaîne, alimentaire. Donc en fait, si le plancton a du mercure, ensuite les petits poissons ont du mercure, sauf que le thon, il a mangé 100 poissons, donc il a 100 fois plus de mercure que le poisson seul. Donc c'est pour ça que aujourd'hui il y a une véritable réflexion qui est poussée pour que les gens soient informés. On ne dit pas aux gens d'arrêter de manger du thon, au contraire, mais surtout, on ne va pas dire ça chez nous, où on est entouré de thon, mais il faut savoir comment prémunir et surtout faire en sorte que cette pollution créée par l'homme soit détournée, parce que c'est celle que nous maîtrisons le mieux.
Voilà, et si vous voulez donc en savoir plus, je vous rappelle que c'est ce soir la projection de L'Envers du Monde. C'est à 18h dans l'amphithéâtre de l'ICEP et c'est évidemment gratuit. Benoît Lerle, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci et bon tri.
Et on poursuit avec l'ouverture jeudi du Salon Habitat Expo à Vaitupa.
La 7e édition du Salon Habitat Expo ouvre ses portes jeudi pour 4 jours à Fa. Près de 70 exposants donnent rendez-vous pour construire, rénover ou embellir votre farée. Habitat Expo réunira en un même lieu tous les professionnels pour vous aider à élaborer le meilleur projet pour votre maison. Comme tous les ans, constructeurs, importateurs de matériaux, piscinistes ou encore cuisinistes seront présents dans les allées du Salon. Cette année, l'événement se tiendra dans un contexte particulièrement favorable aux primo accédant, avec notamment les aides du pays pour les acheteurs de moins de 30 ans et des taux d'intérêt des de crédit immobilier au plus bas historique. L'organisatrice du salon, la directrice de Radio Assodia Aline, veut surfer sur cette vague pour donner aux visiteurs toutes les informations nécessaires en un même endroit. On l'écoute au micro de Samia Stambouli.
Cette année, nous avons mis l'accent sur la primo-accessibilité avec les banques, les assurances, architectes, maîtres d'œuvre. L'objectif, c'est tout simple. Un jeune couple qui souhaite faire construire une maison, il doit trouver en un même lieu l'ensemble de professionnels du secteur qui lui permettront de mener à bien son projet. L'éco-responsabilité dans la construction, alors c'est comment bien construire ou bien rénover son faré pour qu'il soit plus écologique, responsable possible. L'économie d'énergie, l'exposition, le solaire, l'éolien, le stockage, d'eau de pluie, le recyclage. Mais on n'a pas oublié aussi le côté esthétique d'Habitat Expo, puisque nous avons aussi des exposants liés à la décoration. On va présenter le nouveau faré container qui fait 20 mètres carrés, qui est tout à fait équipé et qui peut être aussi installé sans avoir de permis de construire. Donc c'est très pratique pour les gens des îles, par exemple. Et puis surtout, ce qui est important aussi sur le salon Habitat Expo, c'est que tous les exposants vont vous faire des propositions de nouveaux produits et également de prix spécial salon.
Le salon qui sera ouvert de 9 à 18 heures de jeudi à dimanche et vous retrouverez toute cette semaine des émissions spéciales depuis Vaitupa en direct à retrouver sur nos ondes de Radio 1 et Tialet FM.
Et à midi, presque 22, on passe au sport.
Premier sur le sport. Avec sportaiti.com.
Au programme ce matin, on parle des performances de nos athlètes de jiu-jitsu brésilien au Canada. C'est tout de suite avec Tamatoa Tefou.
Yorana et Maiva. Une fois de plus, nos représentants confirment que leur niveau dans les sports de combat est au plus haut. Week-end dernier, lors de l'Open de Québec, ce sont trois Tahitiens qui se sont illustrés à l'une des compétitions les plus importantes du Canada. Dans la catégorie des light, en ceinture bleue, Vehia Lefay réussit à planter le drapeau de la Polynésie française sur la plus haute marche du podium. Les exploits de Noeto ne s'arrêtent pas là. Anapa Pérez, un habitué des podiums canadiens, a récolté deux médailles de bronze en Open et dans sa catégorie, toujours chez les ceintures bleues. Et cerise sur le gâteau, Joshua Tessier décroche une médaille d'or dans sa catégorie et une deuxième place en Open. Au final, nos représentants ramènent deux médailles d'or, une médaille d'argent et deux médailles de bronze pour le Fénois.
Voilà pour le sport. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute l'actualité sportive chez notre partenaire de sportaiti.com.